France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
Halia, Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebien.
C'erano le armi. Nella martoriata Ucraina.
Que les armes se taisent dans l'Ukraine martyrisée.
Qu'on
ait l'audace d'ouvrir la porte à la négociation et aux gestes de dialogue et de rencontre.
C'était en décembre 2024, le pape François dénonçait la guerre en Ukraine et appelait à un cessez-le-feu. Mais quel est vraiment le rôle géopolitique du Vatican? Il occupe une place à part sur la scène internationale. Petit état de 44 hectares qui entretient des relations avec 186 autres pays. Le Saint-Siège s'exprime sur les conflits, l'écologie, notre maison commune, disait le pape, les minorités, les migrants, la mondialisation, le dialogue interreligieux, mais avec ses propres objectifs. Le pape a un statut à part, chef religieux mais aussi chef d'État, et ça crée une relation forcément asymétrique car son État ne possède ni force militaire, ni puissance économique, même s'il est riche, et son peuple de fidèles est dispersé dans le monde entier. Alors quel est vraiment son poids diplomatique? Le rôle du pape ne se réduit pas évidemment à ses voyages pontificaux et à des foules de fidèles en liesse. Quel bilan pour le pape François? François Mabille, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, directeur de l'Observatoire de géopolitique des religions à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Alors pour bien comprendre quel est le poids du Vatican au niveau international, il faut revenir aux accords de Latran en 1929, article 24, c'est un État neutre.
Tout à fait. C'est la première spécificité, singularité de cet État. Le Saint-Siège est à la fois le gouvernement de l'Église, un État, et cet État, qui est un petit État sur la scène internationale, est également neutre. Alors c'est lié à la configuration historique, 1929, vous l'avez dit, mais ça le place parmi les États neutres sur la scène internationale et donc lui confère également des capacités d'action spécifiques.
Ça veut dire, par exemple, qu'il ne peut être médiateur que si on le lui demande ?
Exactement, et c'est un point important parce que, par exemple, dans le cas du conflit ukrainien, le pape s'est proposé comme médiateur, s'est impliqué comme médiateur, alors que ni le gouvernement ukrainien ni le gouvernement russe ne lui demandaient. Donc, au sens strict, par rapport à la loi, au droit international, le pape a fait un certain écart.
On va y revenir. Alors, peut-on vraiment parler de diplomatie pour le Vatican comme pour n'importe quel autre État dans le monde? Il y a un maillage mondial, de toute façon, via les nonces apostoliques.
Tout à fait. Alors, c'est une diplomatie qui est particulière, puisque le rôle des nonces, ces diplomates du Saint-Siège, il est prioritairement d'établir une relation entre les églises locales et le Saint-Siège. Mais leur deuxième mission, c'est effectivement de représenter le Saint-Siège auprès de l'État. Et à ce titre-là, effectivement, il y a un maillage diplomatique international qui est important et qui peut tout à fait se comparer à celui d'États normaux, entre guillemets.
Donc les nonces, ce sont des ambassadeurs, en fait.
Les nonces, ce sont des ambassadeurs, exactement.
Et à quel niveau s'instaure leur dialogue ?
Avec les ministres des Affaires étrangères. Donc c'est un dialogue normal, je dirais, de puissance à puissance, d'État à État, même si, bien évidemment, là, les thèmes qui sont abordés peuvent être ou sont différents de ceux qui sont abordés généralement dans la diplomatie.
Alors, le Vatican, c'est une organisation supranationale via la curie,
oui.
le gouvernement en quelque sorte, mais cette curie s'insère dans les États avec ses églises locales. On dit par exemple que le Vatican est l'un des États les mieux renseignés au monde. C'est vrai ou c'est du fantasme ?
Un peu de fantasme, et en même temps, ça peut être une réalité. Tout dépend, je dirais, des nonces, de leur capacité sur place à se renseigner, à être en lien avec les églises locales. Et du reste, l'une des dernières décisions du pape, il y a quelques jours, a été précisément de réformer l'Académie diplomatique pontificale qui forme depuis des siècles les nonces, précisément pour qu'ils soient plus performants.
De quelle manière ?
Eh bien, à la fois dans leur connaissance des réalités internationales, dans leur connaissance du droit international. Et puis le pape insiste également dans la ligne de sa pastorale à ce que ce soit également des personnes davantage pasteurs et non pas des prélats emmurés dans leur palais diplomatique.
Alors, le Vatican, c'est un pays observateur permanent de l'ONU,
oui.
Qui participe d'ailleurs à une trentaine d'organisations internationales comme l'UNESCO ou encore l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Membre aussi des pays de l'OFCE, membre du Conseil de l'Europe. Quel est son rôle ?
Son rôle, c'est un rôle d'observateur, vous l'avez dit. Il s'agit à la fois de continuer à être au courant des débats internationaux, d'essayer d'influencer par sa diplomatie culturelle, en participant également aux débats d'idées, par des prises de position dans les assemblées onusiennes ou autres, éventuellement de mobiliser d'autres types d'acteurs catholiques. Je pense notamment aux associations catholiques, aux ONG catholiques qui font partie des plus nombreuses.
Qui ont un rôle énorme.
Effectivement.
C'est un relais. Est-ce que c'est... on peut dire aussi que c'est un relais d'opinion, si j'ose dire.
C'est un relais d'opinion, alors qui n'est pas dépendant, je dirais, du Saint-Siège. Il peut y avoir une diversité d'opinions, mais bien évidemment, sur certains sujets, ces ONG catholiques travaillent dans le même sens que la diplomatie du Saint-Siège et peuvent être donc une expression d'une sorte de société civile catholique qui pèse ou qui peut tenter de faire du lobby dans certaines instances internationales.
Mmh. Le Vatican, on le disait tout à l'heure, joue un rôle de médiateur. On l'avait vu par exemple entre Cuba et les États-Unis à l'époque de Barack Obama ?
Oui, et là encore on peut établir une comparaison. Vous parliez tout à l'heure d'États neutres. Certains États, je pense notamment à la Suisse, ont une tradition également de médiation dans des conflits. Pour le Saint-Siège, c'est la même chose. Alors ça s'inscrit dans une tradition historique plus longue. Et effectivement, le pape François s'est beaucoup impliqué sur ces thématiques, à commencer par Cuba, où avec le Canada également, il a réussi cette médiation, fait en sorte que les États-Unis d'Obama et le régime castriste puissent renouer leurs liens diplomatiques. Ça, c'est un exemple de médiation réussie.
Oui, alors à l'inverse, la médiation n'a pas réussi sur l'Ukraine.
Oui.
Évidemment, François est un pape pacifiste. Il a échoué, pour quelle raison ? Il a essayé de se positionner, effectivement, mais il n'a jamais reconnu l'agression russe et il n'a jamais dit ouvertement aux Russes que c'était à eux d'arrêter l'invasion.
Tout à fait. Il y a sans doute plusieurs raisons à cet échec. D'une part, il ne faut pas oublier qu'il y a une église catholique en Russie, et donc vous voyez l'idée de ne pas trop prendre position pour qu'il n'y ait pas de représailles. Ensuite, la volonté du pape de parvenir à un accord durable avec une réconciliation durable avec le patriarcat de Moscou. En 2016, Kirill et le pape François s'étaient rencontrés précisément à Cuba. Donc je pense que ça a joué dans sa perception. Ensuite, il y a eu des erreurs sur le régime russe, des erreurs sur la personnalité de Kirill, dont il n'a pas perçu à quel point il était inféodé au régime russe, et puis des erreurs en termes de positionnement. La diplomatie pontificale, elle s'appuie sur des diplomates professionnels, ce que n'était pas le pape François. Et c'est vrai que certaines expressions qu'il a utilisées, notamment dans le cadre d'interviews où il parlait librement, étaient des expressions malencontreuses. Lorsqu'il a parlé de l'OTAN qui avait aboyé aux portes de la Russie pour justifier en quelque sorte la position russe. De la même façon, lorsqu'il a parlé d'une guerre entre chrétiens, on peut comprendre ce que ça veut dire, mais dans le contexte, ça ne faisait absolument pas sens. Et ça se termine par un appel à la paix, une reddition demandée à l'Ukraine, il y a tout juste un an, sans que le pape, à ce moment-là, s'adresse à la Russie. Et du reste, trois jours ou quatre jours plus tard, il était contredit par le numéro 3, Mgr Gallagher, responsable des relations avec les États, qui a dit exactement l'inverse de ce que le pape avait dit auparavant.
Donc le pape, c'est un peu le diplomate en chef?
C'est
du
le diplomate
Vatican,
en chef.
Qui n'y connaît rien, vous nous expliquez.
Alors, qui ne connaît rien. On pourrait presque dire ça.
C'est pas son métier, envie de dire.
Si on veut être très sérieux, il faut regarder le profil des papes. Qu'ont-ils fait comme études? Le pape, il a fait des études de théologie. Rien ne montre dans son parcours l'acquisition de compétences spécifiques dans l'analyse des relations internationales et plus encore dans le domaine de la diplomatie. Donc on peut dire que c'est un homme de bonne volonté qui mobilise ses connaissances ou ses opinions. Vous voyez, il faut distinguer entre les deux, ses représentations dans le cadre de ses activités. À partir de là, soit il s'appuie sur une diplomatie officielle, celle des nonces qu'on a évoquée tout à l'heure, soit parce qu'il est effectivement le chef de cette diplomatie, il va au bout de ses prérogatives, impose éventuellement certaines de ses idées, mais au risque effectivement qu'elles ne soient pas pertinentes ou qu'elles soient décalées, qu'elles ne soient pas suffisamment jugées comme professionnelles par rapport à des sujets qui sont tout de même extrêmement importants et graves.
D'autant que François voulait absolument continuer à parler à tout le monde.
C'est ça, ça fait partie, alors, je dirais, d'une ambiguïté presque structurelle de l'Église catholique. C'est-à-dire, personne ne doit être étranger à l'Église catholique, et parce qu'elle est neutre également, elle doit pouvoir s'adresser à tout le monde. Mais vous voyez, là aussi, je pense que les attentes ou les exigences que l'on a à l'égard de certains chefs d'État ou d'hommes politiques peuvent tout à fait être appliquées à un chef religieux. Autrement dit, lorsqu'un chef d'État, prenons une démocratie, rencontre un dictateur, généralement, vous, les journalistes, l'opinion publique, les politiques disent « Au nom de quoi rencontrez-vous tel ou tel dictateur ?» Sur quoi portent les négociations ?» Lorsque, autrefois, Sarkozy reçoit Kadhafi, on se pose un certain nombre de questions. C'est un petit peu la même chose, même si on ne le fait pas avec un pape. Est-ce qu'un chef religieux est obligé, au même titre qu'un chef d'État, de discuter, de rencontrer des chefs d'État ? Et sur quel sujet les conversations portent ? Lorsque le numéro 3 du Saint-Siège se rend à Moscou, quelques semaines avant le début de la guerre, et dit qu'il y a des convergences de vues entre le gouvernement russe et le Saint-Siège, on est en droit effectivement de se dire sur quoi portent ces convergences de vues quand on connaît la réalité du régime russe et ce qu'est la politique extérieure de la Russie. De la même façon, lorsque le pape se dresse contre Obama, qui, dans les années 2013, veut éventuellement engager une action militaire contre le régime de Bachar el-Assad, le pape se prononce contre Obama. Et ensuite, on n'entendra pas une seule protestation contre le régime de Bachar el-Assad. Et le nonce en Syrie sera même élevé au rang de cardinal. Vous voyez, il y a là des questions qui méritent d'être posées et qui soulèvent tout de même, pour l'instant, une certaine ambivalence dans cette diplomatie.
C'est ça, on sent qu'il est, finalement, il est sur une ligne de crête. Le pape, il doit naviguer entre son rôle de guide spirituel et d'acteur diplomatique, tout en évitant de passer pour un opposant direct.
Exactement, et on pourrait rajouter à cela le fait que, dans les pays qu'on a mentionnés, existent des églises locales, donc des minorités chrétiennes, et que ça rentre également en ligne de compte dans les propos que tient ou ne souhaite pas tenir le pape. Et on est là, sans doute, au cœur de la spécificité de cette diplomatie.
Sur les migrants, François Mabille, l'une des images les plus marquantes de son pontificat, c'était son premier déplacement sur l'île de Lampedusa. Il a porté ce discours d'accueil et d'ouverture jusqu'au bout, mais pour quel résultat ?
Le responsable de la Commission internationale des migrations en a parlé il y a 2 ans en disant que, bien évidemment, il était très heureux des prises de position du pape, mais qu'il constatait que ça n'avait pas eu d'effet au niveau des États. Et donc, il souhaitait que le pape continue et voire renchérisse. On voit bien là les limites. Effectivement, le pape n'a pas de pouvoir de coercition. Il a un pouvoir d'influence. Il a une diplomatie culturelle. Il peut tenter de s'ingérer dans des affaires intérieures des États. Mais on voit bien effectivement les limites sur un sujet sur lequel il s'est prononcé tout au long de son pontificat.
Oui, et on pense en particulier à tout ce qu'il a dit sur la force du droit doit prévaloir sur le droit à la force. Il était quand même dans quelque chose d'assez frontal avec Donald Trump.
Exactement. Sur ce sujet, il a été effectivement en situation frontale. Vous avez raison de le souligner. On pourrait d'ailleurs rappeler que lors de la première élection de Trump, pendant la campagne électorale, Trump évoquait déjà la possibilité pour lui de construire des murs aux frontières des États-Unis. Et le pape, pendant la campagne électorale, avait dit « Un homme qui veut construire des murs, cet homme-là ne peut pas être chrétien ». Donc on ne peut pas faire plus frontal, et c'est également une des raisons de la dissension entre le pape et la diplomatie européenne. Sur un certain nombre de sujets, la Syrie mais d'autres, le pape s'est systématiquement prononcé pour un accueil, je dirais, sans condition des réfugiés, et bien évidemment, ça crée des tensions avec les différents pays européens.
On parlait des accords de Latran au début de cette interview, 1929. Quels sont les grands dossiers internationaux dans lesquels le Vatican a vraiment pesé depuis les accords de Latran ?
Oh là, ça fait beaucoup d'années. Il y a eu les accords de 1975 et les accords d'Helsinki qui ont été des accords importants et soutenus effectivement par la diplomatie du Saint-Siège. Il s'agissait à ce moment-là de préserver la paix sur le continent européen. Donc c'est un thème qui a été important. Ensuite, on pourrait évoquer certains thèmes traités au niveau de l'ONU. Des dossiers, alors si on prend le pape François, la thématique de l'environnement. temps est une thématique qui a été portée, de la même façon que dès les années 60, l'Église catholique, à la fois au niveau du Saint-Siège, mais à travers les différentes ONG catholiques qu'on a évoquées, se sont prononcées en faveur de l'aide, en faveur des pays dits en voie de développement à ce moment-là. Donc il y a comme ça des dossiers assez forts qui ont été régulièrement portés, effectivement, par la diplomatie du Saint-Siège.
Mais que va-t-il en rester, par exemple, sur l'écologie, même si tout le monde reconnaît que son encyclique est historique ?
Alors, elle est historique et en même temps, j'aurais envie de vous dire, c'est un peu une encyclique de rattrapage. Je vais choquer peut-être certaines personnes, mais enfin, il faut quand même rappeler que la grande mobilisation des chrétiens pour l'environnement, elle date de 1989. C'est le rassemblement œcuménique de Bâle. Donc, vous voyez, plus pratiquement 30 ans, enfin plus de 20 ans auparavant. Donc, quand je parle d'encyclique de rattrapage, ça signifie que la thématique de l'environnement était déjà présente depuis longtemps, qu'il y avait eu des mobilisations, y compris d'ailleurs dans l'espace catholique, mais des mobilisations nombreuses. Et donc, j'allais presque dire, il était temps que il y ait un texte, un grand texte, une encyclique sur le sujet. Mais il est vrai que dans la manière dont elle a été écrite, c'est-à-dire dans un langage compréhensible par tout le monde, en renversant d'ailleurs dans la structuration de l'encyclique l'ordre habituel, c'est-à-dire que le pape s'est adressé d'abord à l'ensemble de l'humanité, en quelque sorte, et ensuite aux croyants à proprement parler, c'est une encyclique qui a eu un réel impact. Alors ensuite, dans sa réception, j'aurais tendance à dire un impact différent suivant sans doute les continents et les pays. C'est une encyclique qui a eu une importance réelle auprès des catholiques latino-américains, par exemple, sans doute beaucoup moins auprès de catholiques européens.
Est-ce que vous diriez que c'est son point de réussite le plus fort au niveau diplomatique de son pontificat ?
Oui, sans doute. Alors, en termes purement diplomatiques, je dirais Cuba. Et dans les thèmes qu'il a évoqués, effectivement, l'environnement est un succès.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci François Mavilly. Et je rappelle que vous êtes aussi l'auteur de « Le Vatican, la papauté face à un monde en crise », publié aux éditions Erol. Bonne soirée.
Merci.
La suite ce soir, c'est le reportage d'un jour dans le monde, direction l'Eswatini, ex-Swaziland, au sud de l'Afrique. Le démantèlement de l'USAID met directement en péril ceux qui ont contracté le VIH, faute de traitement. Et pour vous accompagner jusqu'à 19h, par ordre d'apparition, Corinne Audouin sous les radars.
On part au Kirghizistan, voilà.
Oui,
j'ai réussi, qui veut tourner la page de l'ère soviétique en changeant d'hymne national.
Le Monde à 18h50, c'est avec Claude Guibal cette semaine. Bonsoir Claude.
Bonsoir. Ben nous, on reste dans la même région, on va en Afghanistan pour essayer de comprendre pourquoi Moscou a décidé cette semaine de retirer les talibans de sa liste des organisations terroristes.
Et bonsoir Caroline Gilles.
Bonsoir.
Au pays des 27,
oui,
quel portrait
dans la même région, Adélaïde Charlier, 24 ans, qui a participé il y a quelques années à faire bouger la Commission européenne sur le Green Deal. Aujourd'hui, elle tente de créer des ponts entre jeunesse et institutions européennes.
A tout de suite. Pour l'instant, on part vers l'Angleterre du groupe Pulp, de retour avec un nouvel album, le premier depuis 24 ans. Un morceau que ne renierait pas David Bowie ou Jarvis Cocker. Le chanteur évoque sa vocation de chanteur, justement. Spike Island est en playlist sur Inter. Bon début de soirée avec nous. Something stopped me, dead in my tracks. I was headed for disaster and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged, shrugged then moved on. It's a guess. I was selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to type until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. It's
end it. And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel.
Le président des États-Unis, Donald Trump, a démantelé l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international, des financements qui représentaient plus de 40% de l'aide humanitaire mondiale l'an dernier. De nombreux programmes relevés du PEPFAR, un programme pilier de la lutte mondiale contre le sida, créé par l'ancien président américain George Bush en 2003. Aujourd'hui, les conséquences sont désastreuses pour certains pays. Exemple, l'Eswatini, ancien Swaziland, petit pays d'Afrique australe, enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Là-bas, ce programme couvrait la quasi-totalité des dépenses liées au VIH. Des dizaines de milliers de personnes risquent aujourd'hui de ne plus avoir accès à leur traitement. La suite, c'est Patricia Huon qui nous la raconte.
Ce matin, Pilile est venu collecter ses médicaments antirétroviraux pour les 3 prochains mois. Un petit soulagement, alors qu'elle est sous traitement depuis 20 ans, pour la première fois, elle n'était pas certaine que ceux-ci seraient toujours disponibles à la clinique.
Je ne savais pas. Je me disais qu'on allait peut-être me dire que les médicaments n'étaient plus en stock ou qu'il fallait payer. J'ai lu que les aides américaines ont été arrêtées. Cela m'inquiète. Ma première réaction, ça a été de vérifier les conditions de mon assurance-vie.
Au Eswatini, un quart de la population adulte est séropositive, le taux de prévalence le plus haut du monde. Pourtant, ce petit pays est considéré comme un succès dans la lutte contre la pandémie de VIH-Sida. Le docteur Christopher McQuindy, directeur de la fondation Elizabeth Glaser à Mbabane, la capitale, évoque des progrès immenses ces 20 dernières années.
Le VIH a décimé la population. Les gens étaient infectés, ils tombaient malades et ils mouraient. En 2004, l'espérance de vie moyenne était tombée en dessous de 40 ans. C'est là que le programme PEPFAR a débuté. Et les traitements antirétroviraux sont devenus disponibles. Nous voyons maintenant les effets de ces financements. Nous étions proches d'un contrôle de l'épidémie. L'objectif, 95.
L'Eswatini a été le premier pays africain à atteindre cet objectif défini par les Nations Unies. Cela signifie que 95% des personnes infectées par le VIH ont été diagnostiquées, 95% des personnes diagnostiquées sont sous traitement et 95% des personnes sous traitement ont une charge virale indétectable. Des progrès réalisés grâce à l'introduction en 2004 du programme PEPFAR, le plan d'urgence pour la lutte contre le sida. Des financements qui étaient distribués par l'USAID, l'agence des États-Unis pour le développement, désormais fermée par Donald Trump. Au Eswatini, dans les structures de santé, c'est l'incertitude, voire la panique, constate l'infirmière en chef dans une clinique de l'ouest du pays.
Nous ne savons pas si notre gouvernement va être en mesure de fournir les médicaments pour nos patients. S'ils interrompent le traitement, ils vont tomber malades. Et les efforts qui ont été faits pour la lutte contre le VIH auront été une perte de temps. Je vois beaucoup de difficultés arriver. Ça va être un désastre.
Autre risque imminent, voir un plus grand nombre de bébés naître séropositifs. De 18% en 2003, le taux de transmission du VIH de la mère à l'enfant au Eswatini est descendu à seulement 1,3% grâce notamment au dépistage systématique des femmes enceintes. Zanele, elle aussi séropositive, était employée par la fondation Elisabeth Glaser pour conseiller les futures mères, les encourager à suivre leur traitement. Faute de fonds disponibles, son contrat vient d'être terminé.
Ma fille est tombée malade quand elle avait environ 8 mois. Elle perdait du poids. C'est là que j'ai décidé d'aller faire un test VIH. À l'époque, il fallait le demander. Il n'y avait pas vraiment de prévention pour les mères. Maintenant, ma fille a 20 ans. Elle est sous traitement. Elle va bien. Après, j'ai eu deux autres enfants. Ils sont tous les deux séronégatifs.
Cette année, le monde aurait dû parler de la quasi-élimination du VIH dans un avenir proche. Au lieu de cela, le virus pourrait connaître une résurgence sans précédent.
Reportage signé Patricia Huon, merci. L'actualité passée sous les radars, c'est avec Corinne Audouin. Alors, c'est une affaire qui fait la une en Colombie. Un ancien champion cycliste accusé de plusieurs meurtres.
Oui, il s'appelle Lucho Herrera. Les fans de cyclisme s'en souviennent. Vainqueur de 3 étapes du Tour de France, 2 fois maillot à poids du meilleur grimpeur. Il avait aussi remporté la Vuelta en 87. Voilà, Lucho Herrera aurait commandité l'assassinat de 4 de ses voisins en 2002 pour récupérer leurs terres. La justice a ouvert une enquête. 2 anciens paramilitaires ont raconté que l'ancien champion leur avait offert 40 millions de pesos, l'équivalent de 8000 euros, pour se débarrasser de ses soi-disant guérilleros. Car Herrera avait été enlevé par les FARC, les forces armées révolutionnaires, d'où son rapprochement avec un groupe paramilitaire pour se protéger. Les 4 hommes étaient en fait des paysans voisins de la ferme de Lucho Herrera. Ils ont été égorgés, découpés à la machette, enterrés au bord de la route. Le parquet a qualifié ces meurtres de crimes contre l'humanité, ce qui les rend imprescriptibles. Affaire à suivre.
On reste en altitude puisqu'on part pour l'Himalaya.
L'Himalaya où ce doux bruit pourrait disparaître. On dirait de l'ASMR, hein, t'es les bruits des pas dans la neige.
Oui.
La couche persistante de la chaîne de l'Hindou Kush, qui va de l'Afghanistan à la Birmanie, est au plus bas. La saison neigeuse a commencé avec 3 mois de retard, ce qui menace les ressources en eau de 2 milliards de personnes, et aussi en hydroélectricité, puisque les fleuves sont aussi maigrelés. Le Centre international pour un développement intégré en montagne exhorte les autorités à préparer des stratégies de gestion de l'eau adaptées dans des pays qui sont à la fois parmi les plus vulnérables aux effets du changement climatique et les plus pauvres de la planète.
Et on termine dans la même région, au Kirghizistan. L'ancienne République soviétique veut faire table rase du passé.
En changeant d'hymne national, l'actuel est trop proche de l'hymne russe. Jugez plutôt, voici l'hymne russe. Et l'hymne kirghize actuel. Oui, hein, c'est assez frappant, Christelle.
C'est quasi copié-collé.
Alors, outre les ressemblances musicales, les autorités kirghizes lui reprochent de ne pas exalter l'histoire millénaire de ce peuple nomade. Le peuple kirghize est sur le chemin de la liberté, disent les paroles. Allons-nous chanter encore 100 ans que nous venons d'être indépendants, s'agace le président kirghize. Le chef du Parlement, lui, il a un autre argument, il dit qu'il fait fuir les oiseaux. Alors bref, un concours a été relancé, 700 hymnes proposés, dont celui de Balasiguin Moussaïev. Alors c'est très, voilà, c'est une version au piano, mais le ministère de la Culture n'est pas content. Alors le concours est prolongé, avis aux amateurs.
Merci Corinne. Pour l'instant, nous on préfère ce grand classique de la soul venu de Philadelphie, Me and Mrs. Jones de Billy Paul. Les auteurs de la chanson avaient remarqué que tous les jours à la même heure, en bas de leur bureau, un homme s'installait au café. Il y était rejoint 15 minutes plus tard par une femme. Voici leur histoire.
Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe.
cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays a favorite song. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We got a thing going on. Both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high. 'Cause she's got her own obligations, and so do I. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way, and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones.
Lui et Mrs. Jones, Billy Paul, un classique sorti en 1972. Le Monde à 18h50 avec Claude Guibal.
How dare you? World of
Change. Christelle Rebière. Le 18-20.
Et on se tourne vers l'Afghanistan avec vous ce soir, Claude, pour tenter de comprendre la décision de Moscou de retirer cette semaine les talibans de sa liste des organisations terroristes.
Oui, une liste sur laquelle les talibans étaient pourtant depuis 2003. Il faut dire qu'à l'époque, la grande menace pour Vladimir Poutine, c'était pas l'Ukraine, c'était les indépendantistes tchétchènes qui refusaient de rester soumis à Moscou après la chute de l'Union soviétique. Or, les talibans avaient reconnu l'indépendance de la Tchétchénie. C'était un véritable affront pour Vladimir Poutine, qui les avait donc ainsi punis. Mais il ne faut pas oublier que le maître du Kremlin, c'est un pragmatique froid, et c'est comme ça que pendant toutes ces années, malgré cette inscription sur la liste des organisations terroristes, bien Moscou a entretenu des liens avec les talibans quand ça l'arrangeait. Des enquêtes de la presse internationale ont ainsi révélé que pendant la guerre menée contre les talibans par la coalition internationale, eh bien, les services secrets russes auraient donné des millions de dollars aux talibans pour qu'ils ciblent leurs attaques sur les forces américaines pour les forcer au départ. Une aide décisive qui a donc permis aux talibans de reprendre Kaboul il y a 4 ans après le retrait américain. Vous connaissez le bon vieux principe, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et ben, oui. C'est précisément ce même principe qui est à nouveau à l'œuvre aujourd'hui derrière cette décision de les retirer de la liste des organisations terroristes.
Car Claude, c'est Vladimir Poutine lui-même qui le dit, les talibans sont des alliés dans la lutte contre le terrorisme.
Ouais, je comprends que vu d'ici, la phrase a de quoi surprendre. Mais vu de Moscou, pas du tout, parce que pour Vladimir Poutine, un terroriste, c'est celui qui défie son autorité. Or, c'est pas du tout le cas des talibans, qui ont largement de quoi faire en interne. Bientôt 4 ans après leur victoire, l'aide humanitaire internationale est toujours réduite à minima en raison des restrictions imposées aux femmes. Le pays est laminé au bord du gouffre et les talibans ne sont vraiment pas une menace pour Moscou.
En revanche, ils ont, avec Moscou, un ennemi commun.
Et cet ennemi commun, c'est l'État islamique au Khorassan. C'est la plus puissante des antennes de Daesh. Ce sont des djihadistes rivaux, donc des talibans, qu'ils jugent notamment trop laxistes envers l'islam chiite, qui est leur obsession. Hein. Ce sont eux, ces djihadistes de l'État islamique, qui sont à la manœuvre derrière les attentats, qui frappent les chiites en Afghanistan. Et à la différence des talibans, qui ne s'intéressent qu'à l'Afghanistan, les djihadistes de l'État islamique, eux, sont transnationaux. Ils frappent dans toute l'Asie centrale et ce sont eux qui sont ainsi à l'origine de l'énorme attentat qui a fait 145 morts l'an dernier dans une salle de concert à Moscou. Un coup très dur, on s'en souvient, pour la Russie, attaquée sur son sol. La Russie, que ces djihadistes menacent aussi à travers toute sa zone d'influence au Kazakhstan ou au Tadjikistan.
Vladimir Poutine a donc besoin, on le comprend, des talibans pour lutter contre cet ennemi commun.
Et de leur côté, les talibans, eux, ils ont besoin de sortir de leur isolement sur la scène internationale. À ce jour, aucun pays n'a reconnu leur État, l'Émirat islamique d'Afghanistan. Et même si on est quand même très loin d'une reconnaissance formelle par Moscou, ce retrait de la liste des organisations terroristes permet de fait une forme de normalisation au nom de la lutte antiterroriste commune. Bref, c'est du gagnant-gagnant.
Merci Claude, à demain. Le mardi, c'est Caroline Gillet qui nous fait découvrir les arcanes de l'Union européenne.
France Inter, le 18-20.
Et vous nous présentez chaque semaine quelqu'un qui travaille pour ou autour des institutions européennes. Aujourd'hui, vous dressez le portrait d'Adélaïde Charlier, sans doute la personne la plus jeune que vous ayez croisée dans le cadre de cette chronique, Caroline.
Oui, 24 ans seulement. Et avec elle, je me suis dit que pour avoir du pouvoir dans ce monde, on peut, si on est un homme, un croyant, devenir prêtre, puis cardinal et espérer un jour être élu et devenir pape. Mmh. Ou alors, et ça peut aller plus vite, on peut devenir militant. Comme Adélaïde Charlier, justement, cette jeune Belge, elle était dans le dernier classement Forbes des 30 de moins de 30 ans qui vont compter dans le monde. Je l'ai rencontré place du Luxembourg, dans le quartier européen, juste en face du Parlement.
Vraiment ici, la place du Luxembourg, c'est un symbole pour des manifestations. Il y en a énormément tous les jours. D'ailleurs, c'est surprenant qu'il n'y en ait pas une maintenant. Et donc, beaucoup trop de fois, mes pieds étaient dans la boue de cette petite place.
Parce qu'au milieu, il y a un rond-point avec une statue au-dessus.
Ouais, c'est ça. Et en fait, les gens...
Il y a un peu d'herbe, mais j'imagine qu'assez vite, avec la pluie, ça doit devenir de la gadoue.
Ouais, la pluie et puis le nombre de manifs, parce que vraiment ça s'enchaîne tous les jours.
Quand elle tente d'expliquer comment elle est devenue cette personne qui manifeste ici régulièrement les pieds dans la boue, Adélaïde parle de son adolescence à Hanoï. Entre 11 et 16 ans, elle avait suivi ses parents au Vietnam et elle était à l'école des Nations Unies, avec dans son cursus des cours sur les inégalités sociales, sur l'écologie et sur la solidarité internationale.
Et donc quand je suis rentrée en Belgique pour répondre à ce vide, je me suis tout de suite engagée dans le groupe Amnesty, Oxfam, EcoTeam qu'il y avait à l'école et tout. Et j'étais persuadée que je faisais mon taf, de passer mes lunchs en réunion, à se dire comment on va faire signer la pétition d'Amnesty à tout le monde, etc. Et grâce aux réseaux sociaux, je vois qu'il y a Greta Thunberg qui commence à faire des grèves, plein d'autres jeunes. Et je me dis, ah mais ok, en fait, on peut casser les murs de l'école et aller s'engager genre au-delà de ce qu'on fait ici.
Pour rappel, les grèves scolaires pour le climat de Greta Thunberg, elles commencent en août 2018. Puis début 2019, quelques jeunes dans le nord de la Belgique, en Flandre, décident de se mobiliser à leur tour. Et pour que leur mouvement devienne national, ils ont besoin d'aide de militants belges de l'autre côté de la frontière linguistique.
Le premier jour où je suis arrivée à ma première grève, ils m'ont dit « Ok, t'es prête ?» Et je suis en mode « Pourquoi ?» Bah, c'est toi qui vas gérer toute la communication francophone. En une journée, j'ai dû prendre cette responsabilité-là. Et après, c'était moi qui devais du coup être en contact avec la police. Et en fait, une fois qu'on met le pied dans l'engagement, on sait qu'on peut jamais s'en sortir. Enfin, on ne va jamais en sortir parce qu'on réalise le pouvoir qu'on peut avoir en tant que citoyen quand on s'organise. Et ça, on ne lâche pas.
Adélaïde s'est aussi mobilisée ici contre la politique agricole commune. C'était pendant le Covid. Et plus récemment, elle a participé aux mobilisations qui ont mené à l'adoption de la loi de la restauration de la nature. C'était en août 2024 et l'objectif, restaurer au moins 20% des écosystèmes européens d'ici 2030, puis viser une restauration totale pour 2050.
À un moment, tu as fait partie de ces institutions qu'on voit derrière nous,
ouais.
Puisque tu as été conseillère spéciale auprès du vice-président de la commission Monsieur Timmermans.
Ouais. C'est un rôle, en fait, que je jouais en tant qu'étudiante. Le but était de faire le pont entre le mouvement des jeunes pour le climat à travers l'Europe et la Commission européenne qui développait à ce moment-là le Green Deal européen. Donc ce qui était quand même intéressant, c'est qu'on pouvait avoir accès à des réunions avec le vice-président, Frans Timmermans. On pouvait donner notre avis sur plusieurs politiques. Ça a été un moment important pour rééquilibrer un peu l'accès au monde politique que... Obligatoirement, il y a un jeune qui soit en train de conseiller le commissaire. Trop souvent, on est exclu. Aujourd'hui, on a un nouveau commissaire, il s'en fout, et donc on n'est pas invité.
Dans le dernier épisode ici, on parlait de l'entreprise chinoise Huawei. Elle déclare dépenser au moins 2 millions d'euros par an en lobbying à Bruxelles. En face, les ONG et la société civile ont du mal à se faire entendre. Et depuis quelques mois, la question de leur financement fait l'objet de controverses. Des eurodéputés conservateurs et d'extrême droite ont critiqué la façon dont certaines subventions de la Commission sont attribuées aux ONG, notamment environnementales.
Les fonds qui sont donnés à des ONG de la part de la Commission européenne, qui s'appellent des fonds LIFE, le but de ce fonds, c'est de rééquilibrer justement le lobbying, de se dire, comme les lobbyistes pour les grandes entreprises, eux, ils ont quand même de la thune, les ONG n'en ont pas, on va rééquilibrer un peu ça. Déjà, ce n'est pas du tout à la même hauteur quand même du financement. Et aujourd'hui, on s'attaque à ce seul petit financement que les ONG peuvent parfois avoir et qui sont hyper restreintes, avec énormément de conditions. Et donc ça, c'est une manière de déjà attaquer le contre-pouvoir minimum qui existe. Et c'est fatigant, quoi.
Mais en même temps, t'es vachement... tu t'arrêtes pas de sourire.
Ah ouais, oui, mais je pense que les activistes et les personnes qui s'organisent sont les personnes les plus heureuses du monde, en réalité. Parce qu'on accepte cette réalité difficile. Mais par contre, il y a toujours l'étape d'après qui suit. C'est-à-dire, on se pose toujours la question, ok, mais on fait quoi avec ça maintenant ? On ne s'arrête pas juste autour d'un verre à se dire, ouais, il faudrait changer le monde comme ça. Non, on se dit, ok, le lendemain, on est en réunion et on essaie de faire en sorte que ça se passe. Là-dedans, on retrouve beaucoup, beaucoup de joie.
Voilà, si vous voulez être heureux, donc rejoignez une ONG, devenez activiste. Pour sa part, Adélaïde a créé la sienne, ça s'appelle The Bridge, le pont. Et l'objectif de cette ONG, c'est justement de faire le pont entre les jeunes et les institutions européennes.